Jean-Louis Caribou, pour notre sixième portrait de personnage extraordinaire de Giono. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'un personnage extraordinaire, bien sûr, puisque c'est le thème de l'émission. Et ce personnage extraordinaire, celui-là, il est vraiment extraordinaire, extravagant. Il s'appelle Bobby. Il s'appelle Bobby et c'est dans un livre dont le titre est déjà très, très significatif, « Que ma joie demeure ». Ce livre raconte l'histoire d'un groupe de paysans, enfin un groupe de paysans, une communauté, si on peut dire, de cinq familles de paysans qui vivent éloignés les uns des autres sur un plateau complètement imaginaire, que Giono appelle le plateau Grémone, qui n'existe pas, mais on sait que Giono aime bien refaire sa propre géographie. Alors on peut imaginer à la fois le plateau de Valensole et le plateau du côté de la montagne de Lure, le plateau d'Albion, tous les deux fondus dans un même immense plateau. Donc Giono a l'habitude de surdimensionner un petit peu ses dimensions, ses distances, c'est sa géographie recomposée. Et sur ce plateau, donc, vivent ces paysans qui s'ignorent un petit peu tout en voisinant d'une manière lointaine. Et ils se connaissent à peine, ils se fréquentent peu, et chacun travaille dans son coin. Et l'un d'eux, Jourdan, s'ennuie un petit peu parce qu'il trouve que le travail répétitif, chaque année, la même chose, on laboure, après on herse, après on sème du blé, après on roule, après on herse, on récolte, on fait du pain pour manger. Et chaque année, la même chose, son père faisait ça, son grand-père faisait ça. Et il se dit quand même, on n'est peut-être pas sur Terre uniquement pour manger. C'est peut-être pas notre seule raison de vivre, il doit y avoir des raisons supérieures d'exister. C'est un petit peu des problèmes existentiels qui se posent, même si c'est pas en ces termes-là qui se les posent, d'une manière inconsciente. Et voilà, il se dit qu'il doit y avoir autre chose quand même dans la vie. Et un jour, il avait été à la foire de Roum, qui est un village inventé, une petite ville complètement inventée aussi, qui peut être Manosque, parce que c'est au pied de cet immense plateau. Et là, il rencontre, il entend parler dans un café d'une vieille femme qui passe dans la rue, qui est complètement saoule. Ça fait longtemps que le bois, oh, depuis la mort de son fils, il est où le fils? Il est parti. Mais il est parti où? Au-delà des terres. Au-delà des terres, et pourquoi faire? Pour soigner des lépreux. Soigner des lépreux? Il y a des gens qui soignent les lépreux. Et ça interroge, ça interpelle un petit peu Jourdan, le paysan là, du plateau Grémone. Il rentre chez lui, il rêve, il se dit, mais il y a sur terre des gens qui soignent la lèpre. Et la lèpre, on verra un peu plus tard dans le livre « Comme je demeure », la définition qu'en donne Bobby, ce fameux personnage extraordinaire dont on va faire la connaissance dans un moment. La lèpre, Giono, ou Bobby plutôt, en faisant parler Giono, en donne une définition. La lèpre, ce n'est pas une maladie qui se soigne comme les autres, c'est de l'amour sans emploi. Voilà. Donc ce personnage extraordinaire, il surgit dans la nuit Jourdan, sans trop le savoir, sans trop en être sûr, mais en espérant quand même, il attend ce personnage soigneur de lépreux qui va lui apprendre un petit peu les raisons supérieures d'exister. Je vais vous livrer les premières pages du livre. C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres, et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir, il se tournait, il se retournait. Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait, comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi, puisque tout était immobile. Même le plus petit pompon d'osier, ce n'était pas le vent, c'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Jourdan essaya de réveiller sa femme. « Tu dors ?»«
Oui. »«
Mais tu réponds ?»«
Non. »«
Tu as vu la nuit ?»«
Non. » »«
Il fait un clair superbe. » Elle resta sans répondre et fit aller un gros soupir, un claquet des lèvres et puis un mouvement d'épaule comme une qui se défait d'un fardeau.
« Tu sais à quoi je pense ?»«
Non. » « J'ai envie d'aller labourer entre les amandiers. »«
Oui. » »«
La pièce, là, devant le portail. »«
Oui. » »«
En direction de Fra Joséphine. »«
Oh oui, » dit-elle.
Elle bougea encore deux ou trois fois ses épaules et finalement, elle se coucha, en plein sur le ventre, le visage dans l'oreiller.
« Mais, je veux dire, maintenant, » dit Jourdan.
Il se leva. Le parquet était froid. Le pantalon de velours glacé. Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre. Dehors, on voyait presque comme en plein jour le plateau et la forêt grémone. Les étoiles s'éparpillaient partout. Jourdan descendit à l'étable. Le cheval dormait debout.
« Ah !» dit-il. « Toi, tu sais au moins, voilà que tu n'as pas osé te coucher. »
Il ouvrit le grand ventail. Il donnait directement sur le large du champ. Quand on avait vu la lumière de la nuit, comme ça, sans vitre, entre elle et les yeux, on connaissait tout d'un coup la pureté. On s'apercevait que la lumière du fanal, avec son pétrole, était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonné. Pas de lune, oh, pas de lune, mais on était comme dessous des braises, malgré ce début d'hiver et le froid. Le ciel sentait la cendre. C'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche. Jourdan pensa qu'il était temps de se servir du Brabant neuf. La charrue avait encore les muscles tout bleus de la dernière foire. Elle sentait le magasin du marchand, mais elle avait l'air volonteuse. C'était l'occasion ou jamais. Le cheval s'était réveillé. Il était venu juste près de la porte pour regarder. Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles. « Si vraiment je l'attends parce qu'il doit venir, » se dit Jourdan, « il arrivera par une nuit comme celle-là. » Il avait enfoncé le tranchant du coutre au commencement du champ, en tournant le dos à la ferme de Fra Joséphine et en direction de la forêt grémone. Il aimait mieux labourer dans ce sens parce qu'il recevait en plein nez l'odeur des arbres. C'est le cheval qui, de lui-même, s'était placé de ce côté. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire, tout parlait doucement au sens. La forêt, là-bas, était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pentade aux plumes luisantes.
« Et, se dit Jourdan, j'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer. »
Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui. Il ne savait pas d'où il viendrait. Il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout, c'est qu'après, elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours.
« Moi, je crois qu'il viendra, » se dit Jourdan.
Maintenant, les étoiles étaient dans toute leur violence. Il y en avait de si bien écartées qu'elles s'égouttaient de longues gouttes d'or. On voyait les immenses distances du ciel. Il pouvait être à ce moment-là 3 heures du matin. Il finit son sillon, c'était le quatrième. Il tourna encore une fois le dos à la forêt et il commença à descendre le cinquième en direction de la ferme Fra Joséphine. Il n'y avait rien de changé. Le cheval marchait pareil, Jourdan marchait pareil, l'herbe craquait pareil, ni les bruits, ni l'odeur, ni la nuit dorée. Pourtant, il y avait quelque chose. Jourdan la sentait dans son dos. Il n'osait pas regarder. Plus il se forçait pour résister à l'envie de tourner la tête,
puis il sentait qu'il fallait tourner la tête. Non, il poussa le cheval. Déjà, il y avait quelque chose de changé. Le froussement plus rapide de la terre fendue par le coutre et le fer du cheval qui tinta contre la chaîne de ridelle. Au bout du sillon, il se dit « Maintenant, regarde !» Le champ montait jusque vers la forêt, mais là-haut, il était arrêté net contre la nuit. Juste sur la ligne, on voyait le corps d'un homme. C'était un homme parce qu'il était planté, les jambes écartées, et entre ses jambes, on voyait la nuit et une étoile. « Monte, cheval !» dit Jourdan, puis à lui-même, « et il me trouvera en train de labourer !» L'homme l'attendait. « Salut, dit-il !»« Salut, dit Jourdan. Le temps presse ?»« Le temps ne presse pas, dit Jourdan, tout vient. » « Et à son heure, dit l'homme. »« C'est mon avis, dit Jourdan. » Puis il abandonna les mancherons de la charrue et il laissa retomber ses bras le long de lui. « Tu as du tabac ?» Jourdan se fouilla et donna sa blague. « Je n'ai pas fumé depuis Roum, dit l'homme, mais dans la forêt, valait mieux pas, les chênes sont secs. »« Il n'a pas plu depuis Toussaint, dit Jourdan. »« Le pays sent bon, dit l'homme. » « C'est la première fois que tu y viens ?»« C'est la première fois qu'il est devant moi. Une saison, j'ai fait la vallée de Louvèze. » Et il traça dans la nuit une ligne avec son doigt du côté de l'est. « Et une autre saison, le maquis, dans les collines bleues. » Il montra le nord. « J'étais à côté. Aujourd'hui, j'entre. » Il se détourna à contre-vent pour allumer sa pipe et Jourdan ne put pas voir son visage. Il connut seulement les épaules de l'homme. Une bonne grosseur et qui faisait bien barrière au vent. « Je t'ai vu labourer, dit-il. Je me suis dit, mais il laboure. Alors, je suis venu voir. »« Oui, dit Jourdan, ça n'est pas le besoin. La nuit donnait envie. »« C'est quel tabac ?» dit l'homme en goûtant la pipe. « Du gris. »« Mais tu l'as mis dans du grès rouge. »« Oh, juste, dit Jourdan. »« Je sais les goûts, dit l'homme, et j'aime bien. Ça fait fontaine. » Pardon ? Demanda Jourdan. Le tabac fort, dit l'homme, est déjà épais de lui-même. Si tu le mets dans le grès rouge, il sue. Ça fait une sorte d'amitié, si tu veux, entre le tabac et la pierre, et ça donne à la fumée ce goût de bonne vase claire. Tu n'as jamais ramassé une poignée de boue dans une fontaine de source ? Non. Fais-le, et tu verras. Ça a le goût de cette fumée. Sans. Il lui souffla une bouffée de fumée dans le nez. « Tu sens ?»« Guerre. »« Goûte. » Il lui tendit la pipe. Jourdan suça le tuyau de la pipe. Elle était encore humide de l'homme. « Tu sens ?»« Oui. » Maintenant, il tendit la pipe. « Dans le grès bleu, dit l'homme, le tabac prend le goût du fer. C'est comme ça. Je l'appelle du tabac de forgeron. » « Oh, ce n'est pas précisément le goût du fer, c'est le goût de l'écaille de fer. Tu sais, quand on mouille le blanc et puis qu'on le frappe, les écailles tombent, voilà, ça sent ça. Et encore, pas précisément les écailles qui tombent, mais les écailles qui restent collées à la corne de l'enclume. Voilà ce que ça sent, juste. « Oh, tu as un gros goût, dit Jourdan. »« Oui, dit l'homme, et c'est ça l'affaire. » « Le cheval tremble, dit-il au bout d'un petit moment. Il ne faut pas le laisser au repos. »« Où vas-tu, toi ?» dit Jourdan. « Oh, je vais rester un peu avec toi, le temps de fumer cette pipe de bon tabac. Marche, je te suis. » Et voilà que, de nouveau, Jourdan fait tourner le cheval coquet et, en droite ligne de la ferme Fra Joséphine, le sixième sillon commence. L'homme marche à côté de la charrue. Il ne parle plus, maintenant. Il siffle. Il siffle une chanson qui s'accorde avec tout. Le sillon neuf, la nuit de feu, le large du plateau. Il la siffle tout doucement entre lèvres. Ça a l'air d'être pour lui-même et pour Jourdan comme un secret. Et tout de suite, Jourdan reconnut le son de cette flûte qui chantait jusqu'à présent dans sa tête. Voilà que la chanson a pris l'air et que déjà elle est vivante sur le plateau et que le cheval peut l'entendre. « Alors, dit l'homme, ici, ça s'appelle comment ?»« Plateau Grémone. Vous êtes nombreux ? Une vingtaine. Village ? Non, des fermes. Là, c'est la mienne. Là-bas, Fra Joséphine. Les autres, la Fauconnière, avec ses buis, chez Maurice, mouille Jacques. L'autre est au bord même du petit lac, près de Nérable. Beaucoup de champs ? De larges champs. La terre est bon marché. Oui, je vois. Vous êtes loin les uns des autres. Commence le septième sillon. Tu es seul ? Demanda l'homme. J'ai ma femme. Quel âge ? En rapport. Pas d'enfant ? Non. L'homme siffle encore un petit moment, mais ça monte. Tu aimes ton cheval ? Beaucoup. Il est vieux ? Assez. Et tu le gardes ? Mais oui. Qu'est-ce que tu dis de cette nuit ? J'ai jamais vu la même. Moi non plus, dit l'homme. Orion ressemble à une fleur de carotte. Pardon ? Demanda Jourdan. Orion est deux fois plus grand que d'habitude. C'est ça, là-haut, arrête-toi. Là-haut, là. Tu vois ? Non. J'ai jamais su rien désigner, dit l'homme. C'est curieux, ça. On m'en a toujours fait le reproche. On m'a dit, on ne voit jamais ce que vous voulez dire. Oh, qui t'a dit ça ? Oh, quelqu'un. Un couillon, dit Jourdan. Mais, dit l'homme, toi non plus, tu n'as pas vu Orion. Non, dit Jourdan, mais j'ai bien vu la fleur de carotte. C'est le cœur pur, dit l'homme, et la bonne volonté. À ce moment-là, le septième sillon était fini. Il fallait commencer le huitième. C'était, malgré tout, difficile à dire. « Tu n'as jamais soigné les lépreux ?» demanda Jourdan. « Jamais, dit l'homme, mais il eut l'air de trouver ça tout naturel. » Et ça, c'était bon signe. Puis il se mit à siffler. Vraiment, il y a des proverbes qui ont été faits pour les hommes de la terre, les hommes qui ont vu sans forêt, sans lac, sans montagne et sans foi le ciel renversé. Il faut quand même croire qu'ils y connaissaient quelque chose. Un de ces proverbes dit que d'une chose mauvaise, une belle ne peut pas sortir. Le sifflet était beau comme tout. Il était fait de juste rond. Il allait calme. Il allait juste où il fallait. On sentait qu'il était né d'une tête solide. Il faisait voir le regard de deux yeux placides, des gestes lents, un homme posé sur le large du plateau Grémone, avec la stature et la lenteur d'un arbre. Ce n'était peut-être pas un soigneur de lépreux, mais il y a des hommes prédestinés. Il suffisait peut-être de lui faire voir le mal pour que se réveille en lui l'appétit de soigner. Et maintenant, il fallait commencer le neuvième sillon et la terre montée. Et le cheval était fatigué de ce travail de nuit. Et puis, c'est curieux comment on se débrouille mal dans les choses surnaturelles. Ou qu'on croit. Il y avait déjà ce goût du tabac, ce grès rouge, cette fontaine de source, ce grès bleu et ces écailles de fer. Maintenant, toutes les étoiles étaient vraiment comme des fleurs de carotte. Il avait dit Orion. C'est un mot que peu de gens connaissent. Si j'achetais un cheval jeune, je l'appellerais Orion. Mais il fallait commencer le neuvième sillon. C'était trop important. Tu viens rester ici ? Non, je passe. Tu vas où ? Devant moi. Oh, tu pourras toujours rester un jour ou deux, dit Jourdan en tournant la tête. Pourquoi pas ? Au fond, dit Jourdan, je suis seul et la terre est grande. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ? Non. Pour que le sillon soit bien fait, il aurait encore fallu demander quel est ton métier ? Mais il y avait déjà trop de féerie. On ne voyait presque plus la graine des étoiles. Elles avaient poussé leurs ramures. Le ciel en était tout verdi. Le jour allait se lever. Il faisait froid. Le vent s'étira. La ferme Fra Joséphine grogna d'une porte. De chaque côté du champ, le plateau commença à s'élargir. La lumière verte se mit à courir sur lui, jusque là-bas au fond, contre les montagnes encore noires. De temps en temps, là-haut, dans le ciel, passait comme le bruit d'une grosse corde de guitare. Puis ça s'éteignait et chaque fois la lumière montait d'un écran. « Que je le vois !» se dit Jourdan. Il était arrivé au bout du champ. Il arrêta la charrue, mais il regarda les sabots du cheval, tous les quatre. Enfin, il se dit « Voyons !» Et il se redressa. C'était un homme aux cheveux pleurants, le front large de trois doigts, la peau dorée, tout rasée, et sa peau avait le reflet de la nacre. Des lèvres simples et sans chinoiserie, même un peu minces, des yeux si clairs qu'on aurait dit des trous. Il pouvait avoir environ 35 ans. Pour le reste du corps, durable, et de l'épaule et le bras bon, des mains légères, presque mains de fille. C'était un oui, c'est oui, et non, c'est non, inchangeable. L'aspect d'ensemble était plutôt royal. Une supposition, dit Jourdan, que tu restes ici un jour ou deux. Ton patron ne te dira rien. L'homme sourit. Il avait des dents de loup. Et tu t'appelles ? Pour la commodité, disons, Bobby. Tu bois du café ? Tous les matins. Viens le boire à la maison. Le jour se lève. Alors, l'étranger fit tout seul le 10e sillon, et le 11e, et le 12e, et jusqu'au 20, et tout le champ, et il passa la herse, et il sema, et peut-être même qu'il récolta tout de suite, allez savoir. Donc voilà pour ces premières pages du roman de Giono « Comme un jour demeure », où Giono nous raconte la rencontre entre le paysan Jourdan qui a envie de la bouer et cet homme extraordinaire, Bobby, qui sort de la nuit, qui sort de on ne sait pas où, un errant, un vagabond, et c'est très fréquent dans l'œuvre de Giono. Il y a énormément d'errants, mais celui-là est un peu spécial. C'est un poète, et il a appris à Jourdan quelque chose d'extraordinaire. Il a fait une révélation. Il a parlé d'Orion, fleur de carotte. Alors, tous les paysans connaissent les étoiles un petit peu, en particulier Orion, qui, la nuit, est une magnifique constellation qu'on peut observer en pleine nuit, vers 11h à minuit, jusqu'au petit matin, vers le sud. Donc, Orion, c'est une très très belle constellation, Jourdan la connaît. Jourdan connaît les fleurs de carotte, ce sont des ombellifères qui poussent au bord des champs. Mais alors, là où il est surpris, étonné, et c'est une révélation qui sera répétée pendant toute la suite du roman, Orion, fleur de carotte, tout d'un coup, Jourdan va comprendre quelle est la signification, la métaphore, le symbole de cette image, parce que la constellation d'Orion est belle, une fleur de carotte c'est beau, mais mettre une fleur dans une étoile, Orion, fleur de carotte, ça c'est extraordinaire. Mais ce qui est de plus extraordinaire, quand on écoute la musique des mots, Orion, fleur de carotte, l'opposition des phonèmes, des sons en or et en art qui s'opposent, qui font musique, qui balancent, Orion, fleur de carotte, mettre une fleur dans une étoile en musique, ça, Jourdan y découvre, mais c'est extraordinaire. Et désormais, pendant tout le reste du roman, ce sera, comme je l'ai dit, un symbole, Jourdan sera sensible à cette vision différente du monde. C'est ce qu'on appelle de la poésie. Et il verra le monde non pas dans sa vulgarité domestique ordinaire, mais il le verra avec cette dimension supplémentaire qu'on appelle la poésie. Et Bobby va leur donner des leçons de poésie et de sagesse pendant tout le reste de l'œuvre. Donc ça, c'est le début du roman, mais dont on verra peut-être la suite la prochaine fois.
Jean-Louis Caribou, merci. Donc, le prochain rendez-vous, mercredi 4 octobre à 9h30 pour un septième lecture de Personnages extraordinaires dans l'œuvre de Giono. Merci.
Merci de votre attention et de votre indulgence pour les quelques petits pas trébuchés que j'ai commis pendant cette lecture.
C'est pas grave, les auditeurs se régalent de vous écouter. Un mot peut-être pour les futures émissions, une particularité. Donc, la prochaine fois, ce sera comme aujourd'hui, mais bientôt. Donc, on rappelle que vous occupez du club de théâtre de Handicap Évasion.
Oui.
Et que vous viendrez donc avec une partie des personnes qui font du théâtre dans le groupe pour nous faire du direct à la radio.
Oui, on essaiera de jouer une, deux ou trois petites scénettes des pièces de théâtre que nous avons adaptées de l'œuvre de Giono, puisque nous avons établi un partenariat entre l'association Handicap Évasion 04 et à l'époque le centre Jean Giono de Manosque où nous étions hébergés. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons adapté trois œuvres de Giono pour la jouer au théâtre, le film Crésus, le roman Regain et enfin le roman Que ma joie demeure. Alors, une prochaine fois, nous proposerons peut-être de jouer quelques petites scènes avec quelques comédiens dont certains sont handicapés sur le plan moteur et accompagnés de leurs proches valides. Donc on dira, on jouera, même si visuellement on ne voit pas le personnage, parce qu'au théâtre on voit les personnages, mais là ce serait uniquement audio. Donc on donnera une prestation de quelques scènes de nos pièces de théâtre.
Merci. Et donc ça, on n'a pas encore fixé la date, mais on en parlera sur Fréquence Mistral. Et puis, bon, ça n'a pas de rapport avec ça, mais on rappelle que vous serez pour une séance de dédicace à la librairie La Ruelle pour votre livre « Au bout du monde ». Ce sera le mardi 12 septembre à la librairie La Ruelle à partir de 18h45. C'est ça ?
C'est exact, oui.
Voilà, et ça sera un peu particulier puisque j'ai appris que c'est votre fils qui vous posera les questions et non pas le libraire.
Vous en savez des choses, voilà. Oui, c'est mon fils Didier qui dirigera l'entretien et ce sera un grand plaisir pour moi d'animer cette présentation avec mon fils.
Voilà, donc rendez-vous à la librairie La Ruelle, mardi 12 septembre à partir de 18h45 pour ce beau moment littéraire avec Jean-Louis Caribou. Bonne journée à tous.